La tresse, d'après le roman de Laetitia Colombani, l'album s'appelle La tresse ou le voyage de Lalita. Comme chaque matin, Smita démêle les cheveux de sa fille Lalita. Elle ne les a jamais coupés. En Inde, les femmes gardent longtemps leurs cheveux de naissance, parfois toute leur vie. Elles divisent la chevelure en trois mèches qu'elles entrelacent pour en faire une tresse. Mais aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Aujourd'hui, Lalita va entrer à l'école. À l'école, ses parents n'y sont jamais allés. Dans leur village de Badalpur, les gens comme eux n'y sont pas acceptés. On les appelle les Dalits, les intouchables, ceux qu'on ne doit pas toucher. Ils vivent à l'écart des autres habitants et sont chargés des tâches que personne ne veut effectuer. Chaque jour, Smita prend sa balayette et son panier et part nettoyer les toilettes des fermiers. Ici, il n'y a pas d'eau courante. On fait ses besoins dans des trous creusés à même le sol, des trous que les femmes comme Smita doivent vider. Elles détestent ce travail, mais elle n'a pas le choix. Ce métier se transmet de mère en fille depuis des générations dans sa famille. Le papa de Lalita, Nagarayan, quitte leur cahute à l'orée du village dès le lever du jour. Il est chasseur de rats. Comme son père avant lui, il attrape les rongeurs dans les champs à main nue. Le soir, Smita cuisine les rats de la journée avec du riz. Grillé, ce n'est pas si mauvais. On dit que ça ressemble à du poulet. Nagarayan raconte comment son père les mangeait tout entier en ne laissant que la queue. Cette histoire fait rire Lalita à chaque fois. Smita a un grand rêve. Que sa fille entre à l'école pour apprendre à lire, à écrire et à compter. Elle voudrait que Lalita puisse choisir son métier, qu'elle ne soit pas obligée, comme elle, de vider les toilettes des fermiers. Elle a eu du mal à convaincre son mari. « Va voir le brahman, l'instituteur du village », a-t-elle dit. Oh, « à quoi bon, il n'acceptera jamais une intouchable en classe, tu sais. » Smita lui a tendu une boîte contenant toutes leurs économies. « Donne-lui cet argent, il changera peut-être d'avis. » Nagarayan a parlementé longtemps avec le maître. Celui-ci a pris la boîte et a fini par dire oui. Alors Lalita se prépare pour le grand jour. À l'aide d'un flacon de vernis, Smita dessine sur son front un bindi, le troisième œil comme on l'appelle ici. Il t'aidera à te concentrer aujourd'hui. Tu verras. Sur le chemin, Lalita se cramponne à la main de sa mère. Soudain, elle a peur. Elle s'arrête. Smita voudrait lui dire « Mais réjouis-toi !» Tu seras en bonne santé, tu vivras mieux et plus longtemps que moi. Mais elle ne sait pas comment s'exprimer, comment lui confier ses rêves, ses espoirs un peu fous. Alors, elle désigne l'école et lui dit simplement « Va ». Dans la classe, Lalita est intimidée. Le brahman lui demande d'approcher et lui tend le balai. Elle est une intouchable, elle doit nettoyer la salle. Devant les autres enfants, la petite fille est terrifiée. Lorsqu'elle rentre le soir, Smita trouve sa fille recroquevillée dans la cahute. Son sari est déchiré. Elle se met à crier, furieuse, avant de se figer. Le dos de l'enfant est zébré de marques rouges. Que s'est-il passé? La petite laisse échapper ses mots. Le maître voulait que je balaye devant les autres enfants, alors j'ai dit non, et il m'a frappée avec sa baguette en jonc. Smita a le souffle coupé. Elle prend Lalita dans ses bras et la serre aussi fort qu'elle peut. « Il faut partir », confie Smita à son mari. Elle refuse que sa fille soit à nouveau battue. On dit qu'au bord de la mer, à l'autre bout du pays, une école pour les enfants intouchables a été créée. Là-bas, Lalita serait bien traitée, et elle, surtout, elle apprendrait à lire et à compter. Eux-mêmes pourraient peut-être trouver du travail, et ils n'auraient plus à manger du rat. Nagarayan tente de la raisonner. Le voyage est bien trop dangereux. Ils n'ont pas le droit de quitter le village. Si les fermiers les rattrapent, leur punition sera terrible. « Tant pis !» se dit Smita. « Si tu ne veux pas te venir, nous partirons sans toi. » Et c'est ce qu'elles font. Ce soir-là, Smita s'agenouille devant l'image de Vishnu, le dieu aux quatre bras des hindous. Elle le prie de veiller sur elle et sa fille durant leur long voyage. Et elle lui fait une promesse. Si elles réussissent à s'enfuir, elles iront au temple de Tirupati déposer une offrande au pied de sa statue. À la fin de la prière, elle glisse l'image sous son habit. Soudain, C'est comme si un grand manteau descendait sur ses épaules et l'enveloppait, la rendant invincible. Auprès de Vishnu, elle se sent protégée. Smita et Lalita courent à travers la campagne endormies sans bruit, pour ne pas être vues ni entendues des fermiers. L'enfant a emporté son unique poupée, une petite reine des bandits, du nom de Phulan Devi. Sa maman lui raconte souvent l'histoire de cette célèbre indienne. Avec sa bande, elle défendait les opprimés, prenant aux riches pour donner aux pauvres. L'aube pointe ses premiers rayons. Elles parviennent près d'une grande route où se pressent des camions, dans un vacarme assourdissant. Lalita ne s'est jamais aventurée aussi loin du village. Elle tremble comme une feuille et s'agrippe à sa maman. Au bord de la route, elles attendent longtemps le car pour Varanasi, la ville sacrée. Smita est inquiète, mais le car paraît enfin. Lalita s'étonne de voir tant de monde s'y engouffrer. Il y a là des hommes, des femmes, des enfants, des poules et même une chèvre sur le toit. À Varanasi, Lalita découvre la ville. Elle contemple les devantures des magasins qui proposent des objets plus insolites les uns que les autres, des objets qu'elle n'a d'ailleurs jamais vus. Des familles entières se baignent, tout habillées dans le Gange, le grand fleuve sacré. On s'y plonge pour se purifier. Elles rejoignent la gare dans des trains surpeuplés. Elles montent dans un compartiment bondé et se glissent jusqu'à une petite place. De nombreux voyageurs sont debout, d'autres s'assoient par terre ou grimpent sur les porte-bagages et laissent pendre leurs jambes dans le vide, comme les lianes d'un grand arbre. Après des heures d'un interminable voyage, le train s'arrête à Tirupati. Smita n'a pas oublié la promesse faite à Vishnu. Avant de poursuivre leur route, elles vont aller prier au temple bâti en son honneur. On dit que sa statue a le pouvoir d'exaucer les vœux. Certains lui demandent un mariage heureux, d'autres une bonne moisson, d'autres encore une guérison. Des torrents de pèlerins descendent sur le quai, chargés de couvertures, de bagages, de timbales en métal, de provisions, de fleurs, d'offrandes, des enfants dans les bras, des vieillards sur le dos. La gare ressemble à une fourmilière où s'agitent des milliers d'insectes. Le temple est bâti au sommet d'une montagne. Pour y accéder, il faut gravir un immense escalier. Courage, dit Smita. Allons-y. Les marches sont hautes et escarpées. Lalita est vite épuisée. Ses pieds lui font mal à la chaux. Alors, Smita hisse son petit corps frêle sur son dos et continue la montée. Parvenue au sommet, elle découvre le temple. Il est grand comme une ville. Des familles entières s'y pressent, vêtues de leurs plus beaux habits. Les hommes portent des dhotis, les femmes des saris mauves, rouges, verts, jaunes, bleus, dorés. Lalita est surprise par ce tourbillon de couleurs qui lui donne le tournis. On leur offre des ladous, des petites boules de farine sucrée préparées par les prêtres qu'elles mangent avec appétit. Pour rendre hommage à Vishnu, les plus riches déposent des offrandes de vivres et de fleurs, de pierres précieuses et de bijoux. Les plus jeunes donnent le seul bien qu'ils possèdent, leurs cheveux. Dans le bâtiment, des barbiers s'activent jour et nuit. Ils rasent la tête des hommes, des femmes et des enfants. Lalita se met à pleurer. Elle ne veut pas couper sa tresse. Elle serre contre elle sa poupée. Sa maman lui dit « Ne t'inquiète pas, n'aie pas peur. Je passerai devant toi. » Pour la consoler, Smita lui parle de Vishnu. Grâce à cette offrande, leur Dieu continuera à les protéger. Bientôt, elles seront près de la mer. Une nouvelle vie les attend, sans toilette à vider, sans rats à manger. À cette pensée, Lalita se sent réconfortée. Avec sa maman, Lalita murmure la prière qu'elles ont tant de fois récitée dans leur cahute. Elle ferme les yeux. Lorsqu'elle les rouvre, elle n'a plus de cheveux. Elle passe la main sur sa tête. C'est une drôle de sensation, on dirait le crâne d'un bébé. Sans cheveux, mère et fille se ressemblent, plus que jamais. Elles arrivent enfin près de la mer. Smita trouve du travail dans un atelier de confection de cerfs-volants. Elle aime beaucoup ce nouveau métier. Lalita entre à l'école des enfants intouchables. On l'appelle l'école de l'espoir. Les élèves y sont bien traités. Personne ne leur demande de balayer. Et personne ne les frappe, ni ne les bat. Un jour, une belle surprise attend Lalita. Son papa est là. Il est venu les retrouver. Elle se jette dans ses bras. Nagarayan s'étonne devant ses cheveux coupés. La petite fille le rassure. Ils vont vite repousser. Dans peu de temps, elle pourra à nouveau les tresser. Lalita ne sait pas que sa tresse va faire un long voyage. Les cheveux offerts à Vishnu sont ensuite ramassés et envoyés loin, très loin de son pays, dans un atelier en Sicile, où l'on fabrique des perruques. Et ainsi transformés, ses cheveux partiront au Canada et seront portés par quelqu'un qui en a besoin et qui en prendra soin. Voilà, c'était la tresse de Laetitia Colombani. La tresse ou le voyage de Lalita.